Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Julia Vignali.
Bonjour Mélanie Gomez, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous. Vous le savez, ici on chouchoute tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi en direct avec vous. Alors ce matin, Julia, on parle de quoi ?
Eh bien si je vous dis qu'il pleut plus en Bretagne qu'ailleurs, en France, ou que pour avoir une bonne mémoire, il faut manger du poisson ou bien des carottes, car ça rend aimable, on a tous entendu ces phrases. Mais est-ce qu'elles sont vraies pour autant ? Eh bien on va faire le point et surtout démonter quelques faits news aujourd'hui. On va donc tenter d'y voir plus clair sur des sujets divers tels que l'alimentation, le cerveau ou même l'environnement, tout ça avec l'aide de la science.
Et puis vous le savez, à 11h45, on retrouvera notre binôme de chroniqueurs pour les tendances qui nous font du bien. Et donc avec Margot Grossman, on va faire un focus sur un aliment qui nous veut du bien, une algue miraculeuse qui nous vient des États-Unis, la clamate. Elle regorge de bonnes choses pour nos organismes, mais pas évident de bien l'accommoder dans notre assiette. Margot nous guidera. Ensuite, il y aura Nathalie Le Breton pour sa chronique Lecture Jeunesse. Aujourd'hui, elle mettra en avant des bouquins qui permettent d'aborder le sujet sensible de la grossophobie avec nos enfants. Voilà, bien fait pour vous, c'est tout de suite.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, on est ravis d'être en direct jusqu'à midi avec vous et ce matin on vous pose cette question, avez-vous déjà relayé une fake news ? On va en déconstruire ce matin quelques-unes parmi celles qui sont les plus coriaces, mais avant cela on va écouter Clément Lanoux qui va introduire ce sujet pour nous. Bonjour Clément, j'espère que vous n'avez que des infos vérifiées,
évidemment,
véridiques dans votre
évidemment
chronique aujourd'hui.
Bonjour tout le monde, on va parler des adages et des fake news, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, j'ai moi-même enquêté par exemple l'expression « la nuit tous les chats sont gris ». C'est faux.
En fait,
ils ne changent pas de couleur la nuit. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
C'est faux. Faux aussi.
Ils font un diplôme. Et puis en mai, fais ce qui te plaît. Non, il y a des impôts à déclarer. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Coup de gueule également contre la presse people. Vous savez, ces titres très accrocheurs. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et on regarde à l'intérieur. Et il y a la suite de l'article. Par exemple, Mélanie Gomez et Brad Pitt, c'est terminé. Je l'ai vu cette semaine
encore.
C'est
vrai, malheureusement, voilà. C'est vrai.
C'est vrai. Ouais. Non, régulièrement, il y a des choses comme Florence Foresti et Karim Benzema sont ensemble. Et on tourne la page au Marrakech du Rire cette semaine, rien à voir. Didier Bourdon a été kidnappé, quoi, dans son nouveau film. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, comment fabriquer une fake news ? Parce que ne croyez pas, même si vous vous dites, je l'ai vu à la télé, je l'ai entendu à la radio, on peut vous mentir. La preuve, je vous montre en quelques étapes comment fabriquer une fausse information. Je l'ai fait ce matin, j'ai croisé quelqu'un à qui j'ai posé trois questions qui n'ont absolument rien à voir, vous allez comprendre.
C'était comment la fête de la musique hier soir ?
Ah, c'était très intense, on a fini super tard, mais j'ai adoré.
Bien fait pour vous sur Europe 1, c'est avec ?
Avec Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Est-ce que vous pouvez me conjuguer le verbe dormir à la première personne du singulier au passé composé ?
J'ai dormi.
Et là, vous vous dites, mais quel rapport avec l'émission ? Ah bah, tout simplement, vous prenez ces réponses, vous faites juste un petit montage de ces trois réponses mises bout à bout,
oui.
Ça donne ça.
J'ai dormi avec Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'était très intense, on a fini super tard, mais j'ai adoré.
On peut vous manipuler, attention aux fake news. Ça marche avec toutes les sources d'informations. J'ai pris par exemple, là, il y a quelques jours, le JT d'M6. Vous savez, le soir, Xavier Demoulin, qui a une grande voix, qui raconte des choses sérieuses, parce que c'est un journaliste. Si on mélange, ça donne ça.
Zlatan Ibrahimovic, venu à Paris pour un voyage en amoureux avec un homme d'affaires britannique, porte actuellement des implants mammaires, une énorme polémique. C'est un problème très vite handicapant. 850 1000 élèves de CE2 ont l'intention de changer de visage. La ministre de la Santé a apporté son soutien à cette initiative.
Oh non !
Donc, méfiez-vous, voilà, vous êtes donc sur Europe 1, on va vous dire que des choses vraies, pas de fake news aujourd'hui.
Merci beaucoup Clément, on va à présent aiguiser notre esprit critique avec nos invités du jour. En studio ce matin, il y a déjà vous, Alexandre Marsa, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes rédacteur en chef de Curieux, qui est un média scientifique avec plus de 650 000 abonnés. Avec nous également Florence Imburger, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste scientifique et donc tous les deux vous êtes les co-auteurs avec d'autres du livre « Sans fake news face à la science » qui est donc paru chez First Edition. Pourquoi avoir écrit ce livre, Alexandre ? Vous en aviez marre d'entendre encore et encore des fausses informations à la Clément Lanoux justement ?
Oh oui, bien sûr, mais pas seulement. Alors les fake news, elles ont explosé évidemment avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. En tout cas, on en a beaucoup parlé, il en a fait énormément usage. Et nous, justement, on a lancé notre média curieux.live en septembre 2018, donc à peu près à mi-mandat, puisqu'en fait, les fake news, en réalité, elles sont, on va dire, à 99% pour se laisser une petite marge, souvent sur la contestation du fait scientifique avéré. Évidemment, le changement climatique, par exemple, n'est pas dû aux activités humaines et autres bêtises qui, parfois, peuvent avoir des conséquences graves. Alors, on a des fake news, on a aussi des a priori qui sont moins embêtantes, mais on déconstruit, en fait, tout ça.
Alors là, c'est peut-être pas une fake news, mais en tout cas, une idée reçue qui est très tenace, parce que ma grand-mère, elle disait tout le temps qu'il fallait que je mange des carottes parce que ça allait soit me donner les fesses roses ou me rendre aimable. Dans les deux cas, c'est faux ?
Eh, malheureusement, c'est faux. Sinon, on serait tous aimables. Et c'est bien dommage.
Il n'a pas parlé de vos fesses. Hein.
Non,
mais qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'où, cette histoire ?
Alors là, on a souvent, en fait, de ce qu'on appelle les légendes urbaines. Et évidemment, par tradition et tradition orale, bon, là, on est clairement pour faire manger les enfants.
Oui, elle fait pas bien mal, celle-ci, de fake news, d'adage.
Non, ouais. elle fait pas mal. En plus, son origine est assez rigolote. Elle viendrait, en fait, du fait que pour faire avancer l'âne, on mettait une carotte devant lui, sous le nez. Et d'ailleurs, l'âne, par ailleurs, n'est pas têtu, en fait. C'est juste qu'il est trop intelligent pour se laisser faire. Donc là aussi, on a beaucoup d'a priori. Là, ça ne fait pas vraiment de mal. Tant mieux si on mange des carottes.
Très bien. Alors, de façon plus générale, Florence, comment on les prouve ? Comment on les démonte, ces fake news, par la science ? Vous avez fait appel à des experts pour le livre, évidemment. Mais de quelle façon vous avez travaillé ?
Alors, on a fait beaucoup de recherches documentaires en amont. On s'est appuyé beaucoup sur des publications scientifiques et des méta-analyses aussi, qui sont des compilations de publications scientifiques sur un même sujet. Et on a fait appel à quelques experts également. C'est vrai que c'était beaucoup de travail en un temps assez record. La chance qu'on a, c'est qu'on avait déjà traité quelques sujets en amont, donc on était habitué à ces thématiques et on a pu un peu réutiliser cette matière qu'on a constituée.
Vous aviez
constitué
beaucoup curieux
depuis
live
plusieurs années,
déjà. Voilà. Je crois que vous écrivez pour le site internet curieux.live, justement. Être curieux, c'est quoi pour vous ? Aiguiser son esprit critique, c'est ça ? Ou pas la curiosité ?
Entre autres, c'est être avide de voir, de comprendre, de savoir. C'est une attitude aussi de disponibilité ou d'intérêt à l'égard d'un sujet ou d'un phénomène donné. Et c'est être capable de remettre les savoirs en question, de rechercher des nouvelles infos et de les analyser. Et heureusement, ça se développe, la curiosité, en gardant un esprit ouvert, en ne prenant pas les choses pour acquises, parce que ça évolue dans le temps et la science est là pour...
Il faut être parano un peu ?
Non, pas forcément, non, mais remettre en question, interroger, quoi, sans tomber dans la paranoïa, hein, bien sûr, mais
Alexandre ?
Voilà.
Oui, alors l'esprit critique, parce que là on parle vraiment d'esprit critique, qui est en fait quelque chose de très important dès l'école maternelle.
J'allais vous dire, les enfants,
primaires.
On peut les initier à ça.
On doit les initier à ça. Alors aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, c'est quoi être curieux ? C'est sortir de sa bulle. Non pas que les réseaux sociaux sont pas bons, au contraire, on s'informe beaucoup, on a beaucoup de contacts, donc ça a des valeurs très très fortes. En revanche, sortons de notre bulle. Je vous donne un exemple. Si on est platiste, c'est-à-dire si on pense que la Terre est plate, il y en a encore, beaucoup, qui pensent que la Terre est plate. Si je reste dans ma communauté qui croit elle-même que la Terre est plate, je vais avoir beaucoup d'arguments et je vais tourner en rond. Et donc aiguiser sa curiosité, être curieux, c'est sortir de cette bulle-là, se confronter aussi à d'autres idées. Et puis surtout, et là c'est aussi notre rôle en tant que journaliste, se baser sur des faits scientifiques avérés. C'est le consensus scientifique.
Comment on initie les enfants à ça ? Parce qu'ils ne sont pas journalistes, hein, à 10 ans, mais ils sont beaucoup sur Internet, sur YouTube, où ils voient beaucoup de vidéos, y compris des trucs un peu complotistes. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message, nous parents, pour qu'ils soient curieux, qu'ils restent avec leur esprit critique, justement ?
Mais parfois, les enfants, même plus jeunes que 10 ans, ont une démarche d'esprit critique, parfois beaucoup plus aiguisée que leurs aînés, qui se laissent enfermer un peu dans leur bulle. Alors, ça veut dire quoi en termes éducatifs ? Se dire, en fait, justement, leur dire, allez voir plusieurs sources d'informations, vérifiez cette source d'information. Alors, vérifiez cette source d'information, souvent on pense que c'est le travail d'un journaliste, évidemment, mais pas que. Vérifier la source d'information quand on est lecteur et lectrice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir qui nous parle et d'où ça vient. Si on le voit sur les réseaux sociaux et que c'est pas un site d'information et que l'information, elle semble exceptionnel, incroyable, sortir complètement du cadre.
Ça mérite de se poser des questions.
Il faut se poser une question.
Parce que moi, parfois, la réponse, c'est oui, mais attends, il a 2 millions d'abonnés. Je dis oui, mais enfin, ça ne fait pas de lien scientifique. Hein. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On va continuer à chasser, à traquer des fake news parmi celles qu'on entend parfois depuis notre enfance. Les garçons sont meilleurs que les filles en maths. Ou encore une autre, tiens, je vous la pose la question. On dit que la foudre ne s'abat jamais deux fois au même endroit. Qu'en pensez-vous d'ailleurs ? C'est vrai ou c'est faux ? Vous pouvez répondre à ce petit quiz sur le compte Insta de notre émission et on vous dira ce qu'il en est dans quelques minutes, donc restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on se pose cette question. Avez-vous déjà relayé une fake news? En tout cas, nous, ce matin, on va en déconstruire pas mal d'idées reçues. Certaines très coriaces, vous allez l'entendre. On fait ce boulot avec nos deux invités. Alexandre Marsat, rédacteur en chef de Curieux, qui est un média scientifique avec plus de 650 000 abonnés, ainsi que Florence Imburger, journaliste scientifique. Tous les deux sont parmi les auteurs de ce livre « Sans fake news, face à la science » paru chez First Edition. Alexandre, dans l'équipe, on est de gros consommateurs de café. J'ai vu qu'il en était question dans le bouquin. On entend souvent que c'est quand même mauvais, qu'il faut l'éviter le café. Qui a raison, qui a tort là-dessus?
Personne.
Ah.
Voilà, mais je vais compléter.
Allez-y.
Alors en fait, d'abord, il n'y a pas d'effet néfaste direct du café. Faut toujours relativiser, en fait, notamment quand on parle d'alimentation. Parce que chacun est unique, et donc il faut faire attention aussi s'il y a d'autres maladies, d'autres problèmes. Donc ça, il faut toujours faire attention. En fait, le café a été analysé par l'université de Southampton, qui a réalisé ce dont Florence parlait tout à l'heure, une méta-analyse. C'est-à-dire qu'ils ont compilé des centaines d'études sur le sujet. Parce qu'il y a des centaines d'études sur le sujet, dont une récente d'ailleurs, qui montre que le café modifie durablement le cerveau et aide à l'apprentissage, à la compréhension. Le café, c'est quoi? C'est un excitant. Donc ça a évidemment des effets positifs, suivant ce qu'on recherche, et des effets négatifs. Déjà rien que là-dessus, ça, c'est connu. Effet positif, on veut se réveiller, c'est un excitant, ça nous réveille très bien. Effet négatif, ça dépend à quelle heure on le boit. Si vous voulez vous endormir à 23 heures, la caféine va avoir une durée à peu près de 6 heures. Donc passé 17 heures, vous êtes,
mieux vous
êtes pas bon.
Voilà.
Après, la caféine va pouvoir agir, notamment évidemment, sur le diabète. En bloquant en fait la diffusion de glucose. Ça va avoir aussi un spectre très large en fait d'action contre certaines maladies, des cancers, des maladies de problèmes en fait cardiovasculaires, mais aussi la limitation des maladies neurodégénératives.
Oui, donc ça c'est dépend dans suffisant. Quel cas on se trouve. Ça peut être bien le café en
absolument,
fait.
Absolument, ça peut être très bon. Là aussi, attention, avec modération. Là, les chercheurs parlent de 4 tasses.
Ah oui, pas plus. Ça, pas plus. Et, excusez-moi, tout à l'heure, on a dit que les femmes étaient moins bonnes que les hommes en maths. On peut en parler de cette idée reçue? Enfin bon, moi, je suis pas un bon exemple parce que j'étais nulle, mais
moi,
j'étais des copines qui sont vachement bonnes en maths. Alors,
qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'en dit la science, en tout cas?
Et alors, en fait, la science, elle dit que c'est vrai.
Ah,
elle dit que c'est vrai, mais pourquoi, en fait? C'est une question là où on est vraiment au cœur des stéréotypes sociaux et des stéréotypes de genre qui sont les stéréotypes sociaux les plus forts. Les femmes sont nulles en maths. Pourquoi elles sont nulles en maths?
Quoi?
Parce qu'on le dit.
Bah voilà.
Et du coup, les femmes et notamment les jeunes femmes se limitent, ce qui est un vrai problème d'ailleurs en science parce que les femmes vont se limiter dans les carrières scientifiques alors qu'évidemment, il n'y a aucune différence et on le sait, mais c'est mieux de le rappeler entre les hommes et les femmes. Et donc, il n'y a pas une capacité inférieure ou supérieure chez les hommes ou chez les femmes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette idée-là, de dire attention, quand on dit à quelqu'un « tu vas être mauvais », eh bien, oui, il sera mauvais. Une étude dessus a été menée par deux scientifiques qui ont interrogé en fait des collégiens. Deux exercices, un exercice de géométrie, les femmes ont échoué tout le temps. Majoritairement, elles ont échoué à cet exercice-là, les jeunes femmes de collège. Pas les jeunes hommes. On le fait le même exercice en disant que ce n'est pas de la géométrie, mais du dessin. Même exercice, elles réussissent.
C'est dingue. Alors justement, pour faire le point sur plusieurs idées reçues concernant notre cerveau, on va accueillir tout de suite par téléphone le professeur Philippe Amouyel. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes le directeur général de la Fondation Alzheimer, vous êtes également médecin de santé publique. On entend souvent dans les films, notamment, que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Est-ce que c'est vrai, professeur?
Non, c'est faux et heureusement qu'on ne dit pas que 10%. On utilise toujours 100% de notre cerveau, toutes les parties, lorsqu'on les examine avec des appareils qu'on appelle d'imagerie, on s'aperçoit que lorsque je vous pose une question, lorsqu'on discute comme à l'instant, différentes zones de votre cerveau s'allument et montrent que c'est tout votre cerveau qui intervient dans n'importe quelle relation en général.
Alors professeur, on entend souvent aussi que les hommes et les femmes ont des cerveaux différents. C'est vrai ça ou c'est faux?
Alors, si on considère le petit enfant à la naissance, il n'a pas le même patrimoine génétique, puisque ça définit un petit garçon avec un petit chromosome Y qui va avoir tendance à faire synthétiser la testostérone, qui va modifier progressivement la structure. En revanche, si on regarde un cerveau d'un homme ou un cerveau d'une femme, si vous les mettez en aveugle à quelqu'un, difficile de faire la différence entre les deux. Mm-hmm. Ce qui se passe, c'est qu'il existe quand même des petites différences de fonctionnement, des différences structurelles. Mais il faut savoir que ces différences structurelles sont acquises. Et souvent, elles sont acquises et on doit en tenir compte, comme le disait votre interlocuteur il y a quelques instants, en fonction de deux biais. Il y a ce qu'on appelle le biais d'éducation. On forme les petites filles à certaines tâches et on forme les petits garçons à d'autres tâches qui entraînent des développements structurels un peu différents du cerveau. Et parallèlement, on distingue également des biais stéréotypiques, c'est-à-dire ce qu'évoquait votre interlocuteur il y a quelques instants, c'est-à-dire que si on vous dit que vous n'êtes pas bon en maths, et ben vous réussirez moins bien les exos, alors que si on vous avait dit que vous étiez très bon, ben vous allez bien les réussir. Et ça, c'est très lié à des stéréotypes masculins-féminins.
Professeur, est-ce que c'est vrai que notre mémoire devient défaillante passé 50 ans? Parce que Julia est très inquiète, ça approche pour elle. Mais la mémoire, ça se travaille, on dit ça aussi. Est-ce que c'est vrai même à 80 ans peut-être, ou ça ne sert plus à rien?
Les deux sont vrais, c'est-à-dire que notre cerveau vieillit et qu'il réagit moins vite, il est moins rapide, il perd un peu d'informations. Le premier élément dont on se compare au début, généralement aux alentours de 45 ans, c'est les noms propres. Mais on ne les perd pas complètement, ils reviennent quelques instants après. L'évocation est un peu plus tardive. En revanche, il est clair qu'on n'a pas soit une bonne, soit une mauvaise mémoire. On travaille sa mémoire, on peut améliorer sa mémoire. Il existe des méthodes pour apprendre, pour travailler. Par exemple, si vous lisez beaucoup, vous avez souvent des mémoires qui sont bien meilleures. Mmh. Et ce, à tout âge, y compris quand vous avez 80 ans.
Eh bien, merci beaucoup, professeur Amouyal, pour cette mise au point. Et maintenant, Florent, je crois que vous allez devoir lever le voile sur une chose plus pratique, une question qui fait débat. Doit-on laisser son téléphone portable se décharger avant de le brancher au chargeur ou pas?
Alors oui, en effet, on entend souvent dire qu'il faut décharger complètement les batteries de ces appareils électroniques, smartphones, tablettes, avant de les recharger pour préserver leur durée de vie. Ce n'est plus vrai avec les accumulateurs actuels. C'était le cas avec les batteries nickel-cadmium ou nickel-hydrure métallique, NIMH, qui faisaient des réactions secondaires qui provoquaient la formation d'alliages parasites qui dégradaient les performances de la batterie. Ce phénomène s'appelle l'effet mémoire.
Et là, donc, c'est fini, ça.
Là, c'est fini.
Avec la nouvelle génération,
exactement,
c'est bon.
Exactement. Avec les batteries lithium-ion, il n'y a plus d'effet mémoire. Donc, inutile d'attendre
que ça soit complètement déchargé.
Complète pour charger sa batterie.
Florence, quand on est dans un avion, alors autre sujet dans le bouquin, hein, qui passe, enfin, un avion qui passe dans un nuage, on a l'impression que ça bouge pas mal, hein, qu'il y a des turbulences. Pourtant, c'est juste de la vapeur d'eau, non? Un nuage, on entend ça aussi.
Alors, ça, c'est aussi une idée reçue qui est fausse. S'il se forme à partir de vapeur d'eau, les nuages en réalité sont constitués de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace. Sinon, on ne pourrait pas les voir parce que la vapeur d'eau, c'est du gaz. Et en altitude, avec la baisse de la pression atmosphérique et des températures, cette vapeur d'eau se condense autour de particules solides et forme donc des cristaux qui sont poussés par le vent, qui se rassemblent en nuages. Et lorsque les gouttelettes et cristaux sont trop lourds pour être portés par l'air, ils tombent, il pleut, neige ou grêle. Et pour les turbulences, c'est un phénomène encore différent qui est dû à plusieurs causes, soit le relief, les montagnes, on passe au-dessus d'une montagne, les orages ou les rencontres entre des masses d'air différentes avec des températures complètement différentes.
Alors on a fait un petit quiz du jour, on vous a invité à voter sur notre compte Instagram pour savoir ce que vous en pensez. On dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
C'est totalement faux une fois de plus. La foudre, au contraire, frappe souvent au même endroit, puisque le pic du Midi, par exemple, dans les Pyrénées, est une zone de foudroiement intense, tout comme la Tour Eiffel, qui est foudroyée 4 fois par an en moyenne. Alors pourquoi? Parce que ce sont des édifices de grande hauteur qui amplifient le champ électrique local. C'est l'effet de pointe, on appelle ça l'effet de pointe, un principe mis en œuvre dans les paratonnerres, vous savez, les dispositifs qu'on installe pour éviter la foudre, et qui a été inventé par le chercheur américain Benjamin Franklin, et l'homme politique. La foudre est attirée par deux caractéristiques, la hauteur et aussi la conductivité d'un objet. Donc si c'est du métal, cet objet est en métal, il va vraiment attirer la foudre. Il y a des zones sur la planète qui sont plus foudroyées que d'autres, aussi parce qu'il y a davantage d'orages à cause de la température et de l'humidité. C'est le cas au Venezuela, d'un lac qui est foudroyé tous les jours.
Bon, on a la réponse. Merci beaucoup à tous les deux. On est de retour très vite avec d'autres fake news qu'on va démonter grâce à la science. On va parler des extraterrestres ou même des chemtrails, c'est ça? Les traînées blanches dans le ciel causées par les avions. Certains disent que c'est à cause de produits chimiques qu'on déverserait sur la population. Eh bien, on va faire un point dans quelques minutes sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous ne vous laisserez plus piéger par les fake news les plus courantes. Et que l'on passe justement au crible ce matin avec nos invités. Alexandre Marsa, rédacteur en chef de Curieux, ainsi que Florence Imburger, journaliste scientifique. Alors tous les deux, vous êtes les auteurs du livre « Sans fake news, face à la science » paru chez First Edition. Alexandre, une idée reçue, on entend certains sportifs dire que boire une bière après le sport aurait certains bénéfices. C'est vrai ça ou c'est faux ?
Aïe, 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 je vais vous décevoir. Ah, non, en fait, c'est faux. C'est faux. Bon, il n'y a pas de mal à se faire plaisir.
Modération, bien sûr.
Avec modération. Pourquoi, justement ? C'est que la bière, c'est de l'alcool. Là, on est d'accord. Mm-hmm. Or, l'alcool déshydrate. C'est pour ça qu'on vous dit, pendant les canicules, attention, buvez pas ou pas trop d'alcool. Ça déshydrate. Or, notre corps a besoin de se réhydrater après une séance de sport, même une courte, parce qu'on n'est pas tous des grands sportifs, mais une petite séance de sport, on a besoin de se réhydrater. Donc, la bière, elle peut être agréable, mais elle ne va pas réhydrater. Quand on boit de l'alcool, en gros, on fait plus pipi, on transpire plus que ce qu'on a ingurgité.
Donc il faut boire de l'eau.
On va avoir un déficit, en fait. Et en plus, c'est une boisson qui est calorique. Or, votre corps, quand vous faites du sport, il a besoin de baisser en température. Or, les calories, c'est fait pour remonter en température.
Donc on a tout faux.
Donc là, on a tout faux. Faut boire de l'eau. Et en plus, une fois qu'on a fait une séance de sport, nos muscles, les tissus musculaires ont des micro-liaisons qu'il faut absolument réparer. Et il faut boire absolument de l'eau.
Et donc la bière ne répare pas les lésions musculaires, évidemment. Florence, vous êtes passionnée par l'espace, visiblement. Alors comment ça, on ne flotte pas dans l'espace ? Pourtant, quand on voit les images à la télé, on a l'impression que c'est flagrant. On flotte dans l'espace.
Alors oui, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend Thomas Pesquet, qui était dans la Station Spatiale Internationale...
Il flottait pas mal. Hein.
Oui, c'est vrai. Et en fait, il est en chute libre avec la station qui est en orbite autour de la Terre à une très grande vitesse de 27 700 km/h et il y a quand même un peu de gravité terrestre, 88% de la gravité terrestre en fait, 88% dans l'ISS, et ces deux forces s'annulent, ce qui fait qu'il est en flottaison ainsi que tous les autres objets dans l'ISS.
Et Florence, pourquoi on dit que ça sert à rien de crier dans l'espace ? Parce qu'il n'y a personne ?
Alors, parce qu'il y a le vide, il y a très peu d'atomes. Et or, le son, on sait qu'il est relié par les atomes. La corde vocale, donc quand on émet un son, les cordes vocales vibrent. L'onde sonore va se propager dans l'air via les atomes. Et ensuite, ça va faire vibrer nos tympans. Mais s'il n'y a pas d'atomes pour transmettre cette sonde sonore, il n'y aura
pas... Voilà, on n'ira pas présenter l'émission dans l'espace.
Non,
ça, c'est clair.
En fait, Alexandre... George Clooney ne flotte pas dans l'espace. Aristote disait, la nature a horreur du vide. Évidemment, il avait bien raison. Votre verre d'eau qui est vide, il n'est pas vide. Sur Terre, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une matière liquide, gazeuse ou autre. Il y a toujours de la matière, ce qui n'est pas le cas. On y va, en effet, comme disait Florence, de l'espace où il n'y a rien, sauf beaucoup de débris. Et donc, rien ne peut se propager. C'est aussi pour ça que les scientifiques ont l'habitude de dire l'espace, c'est noir avec des étoiles qui brillent.
Mais alors, comment ils font pour communiquer ? Par ondes radioélectriques, par radio en fait. Et il y a d'autres systèmes qui sont à l'étude, par laser aussi, pour communiquer avec la Terre et qui me permettraient de transmettre encore plus d'informations.
Bon, alors, est-ce que si on veut transmettre des informations, par exemple, aux extraterrestres, est-ce qu'on a une chance de les trouver ? Je crois que vous avez fait un point sur ce que dit la science là-dessus
oui.
aussi.
Oui, alors, bon, ça reste encore assez flou, mais Stephen Hawking, qui était un astrophysicien britannique qui est décédé en 2018, était convaincu que la vie existe ailleurs et il avait annoncé qu'on en aurait la preuve d'ici la fin du siècle. Il y a un organisme aux États-Unis qui s'appelle le SETI, qui s'appelle Search for Extraterrestrial Intelligence Institute, qui scrute le ciel sans relâche à la recherche de signaux venus d'une autre planète. Et bon, pour l'instant, ils n'ont pas enregistré grand-chose, mais il y a différentes indices qui pourraient nous faire croire qu'il y a une vie extraterrestre. Notamment, en 2020, la NASA a découvert un autre système solaire situé à 40 années-lumière de la Terre, qui est 3 des 7 planètes dans ce système solaire, pourrait présenter des conditions propices à la vie.
Ah ben voilà, je vais vous envoyer là-bas, Mélanie. Présenter bien fait pour vous. Parmi les fake news qui pullulent sur le net, il y a celle qui concerne, alors je sais pas comment on dit
chemtrails.
Les chemtrails, ce sont ces traînées blanches dans le ciel laissées par les avions. Soi-disant, ce seraient des tests de produits chimiques sur la population, pour certains. Alexandre, ça vient d'où ces rumeurs ?
Alors là, en fait, on est dans quelque chose de terrible qui va au-delà de la fake news. C'est principalement une théorie du complot, évidemment.
Bah oui.
On nous manipule, et donc qui nous manipule? Derrière, il y a un grand complot international. Évidemment, dans cette théorie du complot pour les complotistes, c'est souvent les Américains. Évidemment, c'est faux. D'où ça vient ces fumées? Ben, c'est en fait tout simplement les réacteurs des avions qui volent à très haute altitude, où il fait autour de moins 40. Et donc, les réacteurs vont réchauffer cette humidité, qui sont des cristaux, les rejeter en fait dans l'air, et ça va former des nuages derrière eux. Ça, je vous invite à regarder, enfin aux auditeurs, aux auditrices, à regarder. C'est une théorie du complot qui a été traitée par Clémence Gouy en illustration, parce qu'il y a deux autres auteurs, Clémence Gouy, illustratrice, aussi Alexandrine Racinet, qui ont travaillé sur ce livre-là. Et on traite aussi de ces théories du complot et de fake news en dessin.
Ça, c'est chouette, effectivement. Alexandre, vous avez fait la lumière dans le bouquin également sur une idée reçue un peu cracra, que, comme quoi, alors elle est estivale, celle-ci, hein, on va y venir justement, l'urine soignerait les piqûres de méduses, c'est vrai ou c'est faux ?
Alors, là encore, c'est faux, en fait. Bah, c'est faux et c'est embêtant. Alors, ça part d'une légende urbaine.
Attends, Julien, elle en a fait des pipis sur des piqûres de méduses.
Surtout qu'on m'a fait pipi dessus. Toute mon enfance. Ah bah super.
Pour rien, en plus.
Alors, en fait, c'est pas cracra. Pourquoi ? Parce que l'urine, d'abord, et c'est pour ça que c'est une légende urbaine, c'est que l'urine, en fait, c'est...
stérile ?
C'est stérile, merci. Cherchez-vous. C'est complètement stérile. Donc, on peut l'utiliser, évidemment, sur des plaies, etc. Il n'y a pas de risque, et ça nettoie même les bactéries.
Ah, vous pouvez continuer,
le
Julia.
Le problème, c'est que les méduses, qu'est-ce qu'elles font ? Les filaments, en fait, ont des sortes de petites capsules. Et ces capsules, au contact de la peau, vont libérer des petits harpons, et c'est ça qui brûle, qui pique. Quand on met de l'urine qui est chaude et qui a d'autres propriétés, ça va venir, les dernières capsules vont venir éclater. Ouais. Et là, aïe, la douleur.
Encore plus de douleur, ouais.
Ne mettez pas non plus de l'eau dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous mettez de l'eau de la mer, et là aussi, il faut utiliser ce qu'on a à proximité. Recouvrez délicatement de sable la plaie.
Et une carte bancaire.
Et passez une carte bancaire.
On laisse sécher. Oui.
Délicatement, ouais. Et vous passez une carte bancaire.
Dernière question rapidement, Alexandre, pour tous les ados qui nous écoutent. On entend souvent que la masturbation rend sourd. Vous vous êtes penché scientifiquement sur la question et le verdict est...
Oui, scientifiquement. Après, il n'y a pas que les ados.
Ah bon ? Bah, la masturbation, on n'aimerait pas perdre des auditeurs.
Alors, c'est vrai qu'on le dit souvent aux ados, et pourtant, il y a 74% des femmes qui disent se masturber, et 95% des hommes qui disent. Donc, il y en a peut-être encore plus.
Ouais, peut-être 100%.
Alors, ça vient d'où, ça, en fait ? Bah, d'abord, le sexe, c'est toujours tabou, et c'est quelque chose qui est né, en fait, avec la pudibonderie du 18e, où l'Église, en fait, ne voulait pas, en fait, ces pratiques licencieuses où le plaisir aurait été utilisé pour la reproduction.
Voilà.
Et donc, pas d'onanisme, comme on dit. Alors, l'onanisme, qui est le fait de se masturber, il y a justement un traité, en fait, qui a été publié par Tissot au XVIIIe siècle, qui, lui, a dit dans ce traité-là que la masturbation pouvait rendre sourd, mais
c'est
une bonne idée reçue.
Et bien voilà, merci de l'avoir déconstruite et toutes les autres aussi. Les fake news, on l'a dans dur, mais on leur a fait la peau ce matin, enfin pas mal en tout cas. Merci encore à vous deux.
Merci.
À suivre, ce sera notre séquence tendance dans quelques minutes avec Margot Grossman. On va faire un focus sur une algue très à la mode en ce moment, le clamate. Et puis avec Nathalie Le Breton, on va vous présenter quelques livres pour enfants qui vous permettront d'aborder avec eux un sujet délicat, la grossophobie. À très très vite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être, c'est tous les matins de 11h à midi en direct. Alors on démarre notre partie consacrée aux tendances portée par deux chroniqueuses aujourd'hui. Je commence par vous, Nathalie Le Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous allez aborder un sujet un peu sensible ce matin.
Mais oui, parce que dans votre émission, on continue de se libérer. Et là, on va essayer de se libérer du culte de la minceur. Et Dieu sait s'il est prégnant celui-là.
Y compris chez les petits, hein, donc il est important d'aborder ces sujets-là avec eux.
Avec des livres.
Parfait Nathalie, vous restez avec nous, on va commencer cette partie avec Margot Grossman. Bonjour Margot.
Bonjour.
Alors il y a comme une brise marine qui est en train de souffler dans ce studio, de quoi s'agit-il ?
Ah bah, il s'agit de l'aliment le plus complet de la planète. Alors si je vous disais qu'un seul et unique super aliment pouvait contenir absolument toutes les vitamines, tous les acides aminés, tous les minéraux et tous les oligo-éléments.
Je dirais fake news.
Voilà, c'est pas fake news. Ouais. Sans doute que c'est impossible et pourtant bah, je vais aujourd'hui vous présenter un un trésor de la nature plutôt impressionnant. Du coup, c'est la clamate.
La clamate, c'est quoi? Ça vient d'où, ça?
Alors, c'est une petite algue d'eau douce, hein, souvent qualifiée d'aliment le plus complet de la planète, tant sa composition nutritionnelle est exceptionnelle. Pourtant, bah, c'est l'un des tout premiers micro-organismes vivants à être apparu sur la Terre. Alors, elle ne vit que dans un seul endroit au monde, et c'est le lac Klamath, dans l'Oregon, aux États-Unis, à une vraie carte postale. Wow. Alors, imaginez un lac turquoise, perché à 1300 mètres d'altitude, bon, sans aucune pollution, bien sûr. Alors, il est à la fois entouré de montagnes, de cascades et de volcans, et alimenté par plus de 17 sources d'eau, ce qui lui donne en fait l'eau la plus pure au monde.
17, c'est incroyable.
17, et bah c'est là que vit la clamate, dans cet écosystème exceptionnel du coup. Et contrairement aux autres algues qui peuvent être cultivées un peu partout, comme la spiruline ou la chlorelle par exemple, la clamate, là, c'est une algue sauvage qui ne peut évoluer nulle part ailleurs que dans son lac.
Ça donne envie, franchement. Hein. Et pourquoi elle est aussi incroyable d'un point de vue nutritionnel, alors?
Alors en fait, elle contient tellement de nutriments qu'il est littéralement impossible de tous les lister sur une étiquette. Alors vous allez voir que c'est un peu plus qu'un super aliment. Déjà, elle contient 73% de protéines, donc c'est un record pour un végétal, et un don du ciel pour les sportifs et tous ceux qui vont suivre un régime végétarien ou végétalien. Ensuite, elle contient absolument toutes les vitamines. Bon, peu de vitamine D, mais elle contient même la fameuse B12, vous savez.
Elle est dure,
oui, voilà, exactement, celle que les végétaliens doivent prendre en complément alimentaire parce qu'on la trouve que dans les produits d'origine animale. Et c'est aussi l'une des sources végétales les plus riches en antioxydants, en oligo-éléments hein, comme le fer, en minéraux comme le calcium. Et elle contient les 20 acides aminés, dont les 9 essentiels que l'organisme ne peut pas fabriquer lui-même.
Ah, quand même, un truc magique, c'est dingue, incroyable. C'est une mine d'or. C'est quoi, c'est bien fait alors?
Et du coup, elle va avoir tout un tas de vertus assez incroyables. On en oubliera donc presque son odeur d'algues. Ah. Alors déjà, elle va agir comme un antidépresseur naturel. En fait, elle va avoir des effets assez puissants pour améliorer l'humeur et le sommeil tout en diminuant le stress. Elle pourrait donc être envisagée comme une alternative ou un complément aux antidépresseurs ou anxiolytiques classiques, hein, sans effets secondaires ni accoutumance. Ensuite, elle va jouer sur le système nerveux. Elle va améliorer la mémoire et aider à se concentrer. Et du coup, elle pourrait aussi être une alternative ou un complément au traitement classique pour le TDAH. Vous savez, le fameux trouble de l'attention hyperactive. Ouais. Que je ne connais que trop bien. Alors, on peut la prendre en traitement ou ponctuellement, l'utiliser avant un effort intellectuel, un entretien d'embauche par exemple.
Pour les enfants qui passent le bac, là, en ce moment.
Pour les enfants qui
passent
le bac, période d'examen, exactement. On peut aussi l'utiliser après un effort physique, puisqu'avec sa richesse en protéines, bah, elle va construire et réparer les muscles. Et elle va aussi stimuler le système immunitaire avec toutes ses vitamines et puis jouer sur la libido. Et elle va également améliorer la digestion, la circulation du sang, le bon fonctionnement du cœur et de la vision, sans oublier qu'elle va contribuer à prévenir les cancers, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. Et parce que c'était pas suffisant, bah elle va sublimer la peau grâce à son bêta-carotène et elle protège même des UV.
Rien que ça, on en veut du coup, on en veut évidemment. Margot, on la trouve où? J'imagine qu'il ne faut pas forcément aller dans l'Oregon.
Bon, ce serait l'idéal que de la récolter à la source, mais sinon pour être sûr de la qualité, moi je vais chez Sol Semilla. Alors c'est à Paris dans le 10e. Sinon vous pouvez en commander directement sur leur site internet, hein, sol-semilla.fr. Alors l'idée c'est d'en prendre 1 à 3 grammes par jour, donc idéalement en cure de 2 mois et plutôt à jeun le matin. On en trouve sous forme de poudre ou de comprimé, mais la poudre ça reste quand même le plus sympa à cuisiner.
Ah, parce que justement on peut la cuisiner cette clamate?
Ça vous intéresse, hein? Oh,
je me disais, si je cuisinais de la clamate.
Allez, cuisinons tous ensemble de la clamate. Alors justement, on va pouvoir en saupoudrer sur les yaourts, les compotes, en mélanger dans nos vinaigrettes, nos jus, nos smoothies. Et en plus, elle va donner une jolie couleur turquoise aux boissons et aux plats. Et je vous ai justement apporté une boisson phare de chez Sol Semilla. Alors ça s'appelle le bleu comme toi, vous pouvez vous servir. Allez. En fait, c'est une eau juste infusée avec une demi-cuillère à café de clamate, de l'amande fraîche, du gingembre et de la cardamome. Donc vous pouvez vous la faire très facilement chez vous. Et j'avais presque oublié de vous dire que la clamate, elle va être aussi parfaite dans le cadre d'un régime minceur, puisqu'elle est très faible en calories.
Ah,
en
mal.
Plus de réguler le cholestérol et d'aider à brûler les graisses.
Allez, de la clamate pour tout le monde. Vendue, on veut votre recette à la clamate. Nathalie,
un petit verre. Allez, je vous passe le verre.
Merci.
Alors justement, je voulais vous partager ma petite recette de glace maison à la clamate. Donc elle est 100% végétale et on va la napper de fruits frais. En plus, elle est parfaite pour l'été. Elle nous envoie direct en vacances avec sa jolie couleur bleutée. Alors elle va être idéale en dessert, au petit déjeuner ou à toute heure de la journée en fait, avec cette chaleur. En plus, elle est prête en 5 minutes chrono. Comme ça, on fait très rapidement le plein de vitamines, de protéines et de minéraux.
D'accord.
Alors pour un bol, vous avez besoin de deux grosses bananes qu'on aura préalablement coupées en quatre, enroulées dans du film alimentaire puis congelées. En fait, c'est ça qui va nous donner la texture d'une glace végétale en remplaçant les œufs, la crème et le lait. On a aussi besoin d'une demi-cuillère à café de clamate en poudre, de 80 ml de lait végétal, donc riz, soja, amande ou coco. une cuillère à soupe de sirop d'érable et des toppings au choix. Alors moi, j'aime bien utiliser une date ciselée, quelques fraises et framboises fraîches, un peu de menthe et de la coco râpée. Alors pour la recette, rien de plus simple. On va simplement mixer les bananes congelées avec le lait, la clamate et le sirop d'érable jusqu'à obtenir la texture d'une crème glacée. Donc on peut ajuster avec plus ou moins de clamate pour obtenir le goût et la couleur souhaitée. Ensuite, on verse cette base dans un bol et on termine en nappant avec nos toppings. Donc ici, coco, fraises, framboises, menthe et date ciselée. Mais vous pouvez mettre vos fruits préférés. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à aller déguster ça au bord du lac Clamate cet été.
C'est sympa dans l'Oregon. Bah, merci Margot. On retrouve la recette et plein d'astuces santé sur votre blog www.amassos.com et votre Instagram margot-amassos. On se tourne maintenant vers notre spécialiste littérature jeunesse. C'est vous, Nathalie Le Breton. On va parler avec vous ce matin de la dictature des apparences et des normes terribles qui pèsent sur nos enfants avec ce qu'on appelle désormais la grossophobie. Alors, quel livre pourriez-vous nous conseiller pour les aider à les libérer finalement de cette pression?
Et vous avez raison, effectivement, de vouloir vous pencher sur le sujet, parce qu'il faut imaginer qu'à l'heure actuelle, plus de la moitié des petites filles de 6 ans se posent la question de leur poids, de leur grosseur ou de leur minceur. Donc c'est quelque chose vraiment d'une espèce de vague qui est embêtante, parce qu'effectivement, elle peut créer de la souffrance. Et une fois n'eut pas coutume, je vais vous accompagner en livre d'abord avec un livre pour les plus grandes, à partir de 9 ans jusqu'à 15 ans. Et j'allais dire, même nous, les jeunes femmes ou les femmes un peu plus mûres, on peut se lire ce livre avec bonheur. Ça s'appelle « Naître fille ». Ça vient de sortir chez Ricochet. C'est un livre d'Alice Dussutour qui a fait d'ailleurs les illustrations qui sont totalement Pepsi. En fait, c'est une sorte d'instantané des filles aujourd'hui dans le monde. À chaque grande région du monde, une histoire. Ça revient sur le patriarcat, ça revient sur les règles, par exemple. Et sur la France, elle a choisi le thème de la grossophobie. Vous rentrez avec elle dans une histoire, dans des illustrations d'une jeune femme qui s'appelle Jade. Jade, elle est plutôt super jolie, mignonne, vous la voyez ici. Elle est hyper créative, elle a des idées, elle a envie d'écrire, etc. Et puis, l'air de rien, on se rend compte qu'elle va de moins en moins bien. On la voit en situation et elle nous parle notamment de sa maman qui travaille énormément, qui s'occupe beaucoup de son apparence et qui finit par lui dire « mais t'es quand même très grosse pour ton âge ». Une petite phrase un peu désagréable, mais qu'on peut malheureusement avoir très maladroitement. Et quand cette phrase vient, et on sait à quel point la parole de la mère est importante, vient se cumuler à des regards éventuellement de garçons sur la jeune fille ou des copines qui sont un petit peu méchantes. Au bout du compte, elle commence à s'étioler, elle commence à aller mal. Même si elle a quelqu'un qui la booste, une sœur à côté, elle finit par aller effectivement mal. Elle a un très bon réflexe, elle va écrire à ses parents pour lui faire part de sa souffrance. Et en fait, les parents vont réaliser que, effectivement, avant d'être un poids, avant d'être une taille de vêtements, on ne parle pas de la santé de l'enfant. Quand on parle du poids de l'enfant, qu'il soit très mince ou qu'il soit déjà dans des rondeurs. Mais d'un seul coup, s'intéresser à la santé et psychique et physiologique, c'est sans doute notre rôle de parent et c'est ce qui va se passer avec cette jeune femme. Très très important, effectivement, de rester à l'écoute, de faire attention à nos phrases d'adultes pressés et maladroits.
Bon, pour les plus jeunes, Nathalie, est-ce qu'on trouve des histoires qui pourraient leur permettre de s'affirmer dans leurs différences et indépendamment du regard des autres?
Oui, alors très très différent, et c'est important d'y aller effectivement avec les jeunes filles, les petites filles de 5-6 ans, avec cette histoire qui s'appelle « Un amour sur mesure ». C'est un livre de Roland Fuentes et Alexandra Huard. J'adore ce livre parce qu'on revient sur les idées reçues, l'impossibilité d'être parfait, bien sûr. L'histoire de ce petit bonhomme qui est minuscule et qui vit au pays des géants et qui s'appelle Gargantuan. Et l'autre, cette petite fille qui est très très grande et qui vit au pays des minuscules, des nains. Évidemment, ils n'ont pas leur place chez eux. Évidemment, ils subissent l'ostracisme. Et évidemment, ils se sentent tellement mal qu'ils veulent quitter l'endroit où ils sont. Ils se disent, mais pourquoi? Puisque moi, je suis grande, je vais aller au pays des géants. Et moi, puisque je suis petit, je vais aller au pays des nains. Mais non, bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça, les diktats et ce qu'on nous impose. Et donc, ils vont sortir de chez eux, ils vont fuir, ils vont se rencontrer, se retrouver dans leurs souffrances, dans leurs larmes, dans leurs cauchemars, et ils vont trouver un monde où il n'y a plus ces critères et ces cultes différents de grandeur, de grosseur, de petite taille, etc. Et ils vont vivre heureux. C'est un message important parce que la vie est du côté du métissage. La vie est en dehors des standards. C'est ça qu'il faut arriver à communiquer à nos enfants.
Alors justement, comment oser s'affirmer, se différencier? Ça ne se décrète pas. Comment les aider à revendiquer ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent sans avoir peur des jugements, rapidement, Nathalie?
Oui, ça fait écho très rapidement à ce que vous disiez tout à l'heure. Aiguiser l'esprit critique. Qu'en penses-tu? C'est un très bon livre qui est sorti chez Lagrume. C'est drôlement bien. Ça prend plein de situations de vie. Je vous explique, par exemple, juste une robe, la robe d'une maman avec un joli dessin. La petite fille, elle est là, elle est super, elle adore la robe de sa maman. La petite fille va aller dessiner ce même dessin sur un mur et elle va se faire disputer. Mmh. Qu'en penses-tu? À chaque fois, une situation, plusieurs façons d'envisager les choses. C'est ce que nous propose ce livre avec la question, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour que l'enfant formule des phrases, des argumentaires et prenne son envol, sa liberté de penser.
C'est ça, aiguiser l'esprit critique de nos enfants et on peut le faire grâce au bouquin. Merci beaucoup Nathalie pour ces recommandations de livres bien utiles quand on se sent désemparé par ce que peuvent vivre nos enfants. On retrouve les références sur europe1.fr et vos sélections dans les box notissées au ton. Voilà, notre émission est terminée pour aujourd'hui, mais nous serons évidemment de retour demain dès 11h. Julia, on aura quoi au programme?
Eh bien, je vous propose qu'on rêve ensemble demain, qu'il s'agisse d'un doux rêve ou d'un sombre cauchemar. Ce que l'on vit pendant que l'on dort en dit souvent long sur nous. Que veut nous dire notre inconscient quand nous dormons? Nous répondrons à toutes ces questions dans Bienfait pour vous.
En attendant, on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le menu chez vous?
Le menu d'Europe Midi, ça va être la situation politique. C'est très très compliqué. On est dans une impasse politique, faut le dire. Le président de la République continue ses consultations. Il reçoit à l'Élysée les informations dans Europe Midi. Puis on va parler de ce gouvernement d'union nationale qu'envisagerait de former le président de la République. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution? On en parle avec vous au 39-21 et avec mes invités Laurent Jacobelli du RN, député RN, et Xavier Iacovelli, sénateur LREM.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.